Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Le 9 août 1969, une jeune actrice pleine d'avenir est assassinée. Cette artiste, c'est Sharon Tate. Sharon Tate, comédienne qui commençait une belle carrière grâce à un film de Roman Polanski, Le bal des vampires. Elle était mariée d'ailleurs à Roman Polanski depuis un peu plus d'un an. Et elle a été assassinée, pas seule d'ailleurs, à cause d'une secte dont on n'a jamais vraiment percé le mystère. Je veux parler de la secte de Charles Manson. Alors, qui était Charles Manson? Il est né en 1934. Il a une mère qui va aller en prison à plusieurs reprises et comme par hasard pour vol à main armée, ce qui n'était pas vraiment très courant de la part d'une femme. Et Charles Manson, très vite, va être entraîné dans un tourbillon qui l'amènera plusieurs reprises en prison. Il va être interné pour viol, pour vol, pour agression sexuelle. Il va se marier et divorcer, il va être proxénète. Et en prison, en 1960, il apprend la guitare. Il apprend le chant. Il est fasciné par les Beatles. Il sort de prison en 1967. Il va essayer de faire une carrière dans la chanson. Il va contacter le producteur, Terry Melcher. Ce dernier ne donnera pas suite. Et on peut supposer que Charles Manson en a ressenti une haine pour cet homme. Et Terry Melcher était locataire d'une maison dans Los Angeles, au 10 050 Cello Drive. Ce qui est étonnant, c'est que, assez vite, Charles Manson regroupe des admirateurs et des admiratrices. À 32 ans, il fonde une communauté hippie. Il se prétend, excusez du peu, réincarnation du Christ. Il est suivi par des gens qui varient entre 9 et 20 personnes et qui vivent de viol, trafic de drogue, de vol. Et l'idée de Charles Manson, c'est qu'il devait, par sa parole, n'oublions pas qu'il se prétendait la réincarnation du Christ, il devait amener la domination des Noirs sur la société américaine. Oh, pas parce qu'ils pensaient que les Noirs étaient particulièrement estimables, mais il affirmait que les Noirs sont tellement bêtes qu'au bout de peu de temps, les Blancs reprendraient le pouvoir et ne le quitteraient plus. Il n'y participera pas lui-même, il va envoyer ses fidèles à la demeure de Terry Melcher. Ce qu'il ignore, c'est que Terry Melcher n'habite plus cette maison et que cette maison a été louée. Louée à Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski. Signalons quand même pour ajouter à l'horreur que Sharon Tate, à l'époque, était enceinte de 8 mois et demi. Et alors, le commando va foncé sur la maison. Il y a Charles Tex Watson, Patricia Camion-Kerr, Linda Casalsam et Suzanne Atkin. Ils vont massacrer tous les gens qu'ils vont trouver dans la maison. Et en premier lieu, évidemment, Sharon Tate, mais également un producteur, un scénariste, des époux. Seul le gardien de la villa échappera au massacre, mais son ami, qui est venu voir ce qui se passait, va être abattu. Et ce qui est peut-être le plus atroce, c'est lors du procès de celles qui ont commis ces meurtres. Voici ce que va déclarer une des tueuses, Suzanne Atkins. Elle dira au procès, en parlant de Sharon Tate, qu'elle pleurait et suppliait. « Ne me tuez pas, je veux avoir mon bébé. » Je lui ai dit « Écoute, salope, je me fous que tu aies un gosse. Tu vas mourir et c'est tout. » Alors, on l'a achevé. J'avais du sang sur les mains, j'y écoutais. C'était chaud, collant, délicieux. On voulait leur arracher les yeux, écraser les globes contre les murs, mais on n'a pas eu le temps. Ils ont quand même eu le temps d'inscrire sur la porte de la maison « Pig, cochon ». Alors, y a-t-il une explication valable? Charles Manson a été jugé. Il a été condamné à mort, mais la peine de mort ayant été abolie dans cet État des États-Unis, sa peine a été convertie en prison à perpétuité. Il est mort en prison en 2017. Cela n'a pas changé grand-chose au sort de ces victimes de 1969. D'ailleurs, les tueurs ont continué les jours suivants, parce que le temps qu'on trouve les victimes dans la maison, le temps qu'on remonte jusqu'à vous, ils ont continué à sévir. Alors, signalons quand même que en 2013, un très grand cinéaste américain, Quentin Tarantino, a essayé de réaliser un film sur les massacres commis par la bande de Charles Manson. Ce film, c'est Once Upon a Time, il était une fois, on peut dire, avec, dans le rôle principal, d'amant, Harry Mann. Mais ce qui continue à interroger, comment se fait-il que des gens aient été envoûtés à ce niveau, à ce point, par un fou, il faut bien dire les choses, et en soient arrivés à commettre ce genre d'atrocité. Si vous avez l'occasion, peut-être trouverez-vous sur Internet des photos du procès des trois femmes qui ont participé au massacre, participé activement, qui ont tué. Et il y a une photo qui est particulièrement effrayante. Ces trois femmes, trois belles filles, hilares, ravies, épanouies, riant de toutes leurs dents dans les couloirs du palais de justice. Et cette image-là, on ne peut pas s'empêcher d'y penser lorsqu'on songe aux gens qu'ils ont tués. Mais Charles Manson n'est pas le seul à avoir créé une secte meurtrière. Je ne peux pas ne pas évoquer un massacre que certains ont appelé suicide collectif et qui s'est déroulé 9 ans plus tard dans le pays de Guyana, au sud du Venezuela. Guyana, c'est ce qu'on a appelé la secte de l'enfer. Et que c'est son fondateur avait appelé le temple du peuple. Mais je vous propose une première pause musicale. Le temple du peuple, c'est une formation que l'on doit à un religieux, le révérend Jim Jones. Il a été fondé en 1955 à Indianapolis. En 1960, Jim Jones adhère à la Fédération des Églises protestantes et des disciples du Christ. Il va s'installer en Californie, puis à San Francisco. Et très vite, il aura un grand nombre d'adeptes, noirs en majorité, issus de milieux défavorisés. Et dans sa propriété, il va créer des structures pour venir en aide aux gens, notamment un centre de désintoxication. Ce n'est qu'en 1974 qu'il va s'installer en Guyana. Et il va appeler sa communauté Jonestown, n'hésitant pas à donner son nom à la propriété, à la secte qu'il a fondée. Et il va développer pendant des années un thème qui, pense-t-il, justifiait tout. Il se disait victime d'un complot. Un complot du FBI ou de la CIA, ça dépendait des jours. Et puis, en 1978, le 18 novembre exactement, un membre du Congrès américain vient enquêter dans ce domaine de Jonestown. Il vient enquêter parce que il y a eu des plaintes qui sont arrivées jusqu'au Congrès américain. Des plaintes déposées par des gens qui ont quitté la secte, ou par des proches de fidèles de la secte. Et lorsque Léo Rim, ce membre du Congrès, prend l'avion, va prendre l'avion pour repartir, il est fusillé. Il est tué à bout portant, ainsi que trois journalistes qui l'accompagnaient et un détective le soir même. Le 18 novembre 1978, Jim Jones, force de suicide collectif d'environ 910 fidèles sur place. Les victimes avale du cyanure de potassium avant d'être abattu sur place par balle. Il y aura à peine une vingtaine de survivants. Alors, comment est-ce que ce genre chose est possible. On dit que Jim Jones s'est suicidé. Ça a été remis en doute par des enquêteurs qui ont déterminé que il n'avait pas pu se suicider, mais qu'il avait été abattu. Sur les 910 cadavres, 304 étaient des enfants et des adolescents. Et on va, après ce massacre, mettre à jour la réalité de Tom Town, Jonestown, pardon. On sait que des parents ont été forcés d'empoisonner leurs enfants dans ce massacre. On va découvrir qu'en réalité, la secte, le temple du peuple, disposait d'environ 10 millions de dollars en banque. Certains chercheurs ont dit que sur les 910 victimes, seulement 200 s'étaient suicidés. Le reste avait été abattu. puis on va découvrir la réalité de la vie intérieure de cette ville, pas comme les autres. D'abord, les gens ne recevaient pas de salaire, ils avaient le logement, la nourriture. Et lorsqu'ils rentraient au temple, ils devaient faire don de tout ce qu'ils possédaient. Alors, évidemment, toujours ce mysticisme. Jones disait qu'il était un prophète envoyé par Dieu. Il guérissait par l'imposition des mains. En fait, les gens travaillaient à peu près 11 heures par jour. Toujours son salaire, bien sûr. Et ce qui est bizarre, c'est que certains l'ont soutenu, des gens connus, Angela Davis, Jane Fonda. Et sans doute ignorait-elle la réalité de ce qu'était le faux prophète. Mais au-delà de ces 910 cadavres qu'on a retrouvés éparpillés un peu partout, dans le domaine, se pose la question de savoir comment se fait-il que de telles choses soient possibles. Comment se fait-il que les gens ne se soient pas révoltés contre ce qui se passait? Comment se fait-il qu'un fou et puis à ce point dominer les esprits qu'apparemment beaucoup quand même se sont soumis à lui? Alors, bien sûr, c'est le plus facile, la thèse du complot. À plusieurs reprises, Jim Jones a répété inlassablement que le FBI ou la CIA complotaient contre lui. Mais évidemment, on ne voit pas quel aurait été l'intérêt, aussi bien de la CIA que du FBI, de comploter contre quelqu'un comme Jim Jones. Et tristement, c'est quand même à cause de lui qu'on a découvert qu'il existait un pays qui s'appelle le Guyana. Je vous remercie de m'avoir écouté.